Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, ça va parler d'évangélisation. C'est concernant le souci des âmes. C'est un sujet qui est difficile, un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien, le système de son, ça va bien? OK. C'était des réflexions personnelles que j'avais eues à ce sujet-là. Parce que, pour vous dire honnêtement, je suis chrétien depuis 33 ans, mais peut-être pendant une trentaine d'années, l'évangélisation, ça a été vraiment difficile, un sujet de beaucoup de questionnement, de culpabilité. Et puis, des fois, on se sent un peu comme ça. Vous voyez la fille? Là, vous voyez pas bien. Est-ce que, je ne sais pas si les spotlights sont vraiment nécessaires à ce point-là. C'est moi qui cache en plus de ça? Est-ce que vous voyez bien? OK? C'est en haut d'une tour, et puis ils sont allés visiter, puis prendre des photos. Fait que la petite fille est là, elle a son appareil photo en main, et puis là, elle a peur des hauteurs. Et puis là, il arrive une crise. Puis là, peut-être pour la première fois, elle réalise, hey, je me sens vraiment pas bien ici, puis il y a une grande peur. Qui l'apprend, on voit son père, puis là, son petit frère est à côté, puis lui trouve ça bien comique, il la prend en photo. Mais c'est ça, c'est un sujet, l'évangélisation, hein, qui est susceptible de causer un malaise, la peur, fardeau d'obligation, la culpabilité, puis le décrochage aussi. Spirituellement, on se dit, écoute, oublie ça, je suis pas capable. C'est pas mon appel, c'est pas mon don. Est-ce qu'il y en a qui sentent, quand on parle d'évangélisation, là, qui sentent un peu comme la fille qui est là? Hein? Si, je veux dire, c'est sûr que c'est, c'est sûr que c'est, mais je le ressens, là, c'est pas facile. Fait que mon but, là, aujourd'hui, là, c'est pas de rendre personne coupable, c'est pas de forcer personne, mais, c'est ça, pendant une trentaine d'années, là, ça a été vraiment difficile pour moi. Puis là, ça va mieux. Et puis, ce que j'aimerais, c'est vous fournir un petit peu mes réflexions. Et puis, comment que ça a évolué, que ça a changé un petit peu. Et puis, calmez-vous, là. Faites juste écouter. Et puis, on va prier que le Seigneur nous parle, qu'il fasse son travail. Mais mon but, c'est pas de forcer personne. Oui, ça risque d'être déplaisant. Mais, laissons le Seigneur agir. Il est en contrôle, il sait ce qu'il fait. Puis moi, je veux pas imposer, puis si le Seigneur vous impose quelque chose, ça c'est entre vous et lui, mais écoutons, puis essayons relaxer, là, parce que je sais, là, quand on tombe sur ce sujet-là, des fois, c'est automatique, clic, on tourne à off, puis là, on part, on pense à d'autres choses, c'est pas pour moi, pas capable. C'est ça qu'on se dit, puis ça finit là. Fait que là, évitez de faire ça, évitons. Et puis, mettons-nous devant le Seigneur, on va prier. Merci Seigneur que tu nous aimes, que tu as un bon plan pour nous. Et oui, un appel que tu as envers nous et on veut écouter, on veut explorer toutes ces choses-là. Et on veut te demander ta grâce. Seigneur, pour ce matin, qu'il puisse avoir... qu'on puisse avoir ton secours, ta grâce pour écouter, pour être à ton écoute, te laisser nous parler et que de toutes ces paroles, qu'ils puissent avoir une portée spirituelle, un profit spirituel, et que ça nous fasse du bien là où ça, c'est lourd pour nous, là où on a des difficultés. Et tout ce miracle-là, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. OK. Ouais, c'est ça, c'est dommage, hein, ça paraît pas foncé, mon écriture, mais est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit là? Ouais, OK, c'est peut-être moi là qui est collé dessus là. Donc, c'est ça, je trouverais dommage là, en sortant d'ici ce matin quelqu'un à évangéliser seulement par culpabilité, par obligation. C'est pas ça l'idée. Mais c'est sûr que ça peut être utile parce que toute forme d'évangélisation, c'est dit dans la Bible, même quelqu'un qui évangélise par jalousie, par envie, le Seigneur peut bénir ça, convertir. Mais c'est plate que ce soit juste ça. Mon ambition, c'est que Dieu, il nous transforme, il nous renouvelle l'intelligence, puis qu'on attrape la piqûre de partager notre foi par la foi. Puis là, c'est quoi cette affaire-là, partager notre foi par la foi? Je pense que je vais me tasser carrément. Et puis, je vais tasser ça ici pour... Moi, je vais le lire comme ça. Je n'aurai pas besoin de me tourner tout le temps. C'est-tu mieux comme ça pour voir l'écran? Là, je cache moins de monde. OK. Bon. C'est quoi ça, partager notre foi par la foi? C'est comme deux utilisations du mot foi. Partager notre foi dans le sens de nos convictions spirituelles. Par la foi, c'est en faisant davantage confiance à Dieu, d'avoir foi en lui. Si je le fais, il va intervenir, il va faire de quoi? Là, je vais expliquer un petit... c'est pas des transmissions là, qui sont là, mais... C'est différentes perspectives face à l'évangélisation. Je peux être dans cette perspective-là. Hein, je regarde ça d'en bas. Je garde le problème au problème. Et puis, j'ai une attitude qui est comme celle-là ici en tête. Je sais pas si vous voyez, ça, c'était Thomas. Quand Jésus lui dit, écoute, viens mettre ton doigt là dans ma plaie, puis regarde, c'est vraiment moi qui ai ressuscité. Il y avait une attitude de doute face à la puissance de la résurrection. Et si on voyait sa face, là, c'est dit, ah, c'est pas possible, voyons donc, comment ça se fait? Et la raison travaillait en lui, puis il disait, voyons donc, ça se peut pas, ça marche pas. Puis c'était difficile pour lui de croire ça. Fait que je peux avoir cette attitude-là en tête, puis je regarde au problème. Et là, je vais partager ma foi, puis c'est vrai, hein, j'ai peur du rejet, puis garanti, ça peut arriver. C'est pas que c'est faux, c'est vrai. Je suis pas capable, c'est vrai. Qui est capable de convertir quelqu'un par ses propres forces? Non, ça prend un miracle. Je me sens coupable, c'est vrai, parce que moi, j'aime pas ça, souffrir, puis me faire rejeter, faire rire de moi, la moquerie, puis tout ça. Qui aime ça ici, le rejet? C'est sûr. Et puis, je me sens un échec. Je me semble, là, c'est tellement important là, d'être un évangéliste. Là. Je suis un échec chrétien. Hein? Fait que ça, c'est de regarder. C'est tout ça, c'est vrai, puis c'est réaliste. Mais on regarde le problème. Et là, il y a une différente perspective face à l'évangélisation. Puis c'est celle-là que j'aimerais encourager, valoriser. Puis c'est ça, là, tu sais, vraiment, Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, remets le feu quelque part que j'ai peut-être perdu, fais un travail, remets l'étincelle qu'on avait peut-être même au début. Et cette autre perspective-là, de faire confiance à Dieu, de regarder, j'ai mis en haut, là, tu as regardé d'en haut, là, c'est difficile à lire pour vous, hein. Et en tête, là, j'ai une foi qui est confiante. Je sais que c'est difficile. Je sais que je ne suis pas capable. Mais là, je vais avancer, là, je vais y faire confiance. Il ne me demandera pas quelque chose d'inutile. Ça peut me paraître inutile, mais j'y fais confiance. Vous voyez, là, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de peur de rejet, mais on rajoute à ça la foi. Partager sa foi par la foi. Là, une foi confiante. Et dans le petit texte qui est là, que vous n'arrivez probablement pas à lire, c'est faire confiance à Dieu en voulant dire, OK, là, tu me dis que la destinée des âmes est importante. OK. Là, il faut que j'accepte cette affaire-là, puis tu veux m'utiliser. OK. Ça me dérange un peu, mais c'est ça que tu veux. Je vais l'accepter. Si Jésus me demande de parler, c'est qu'il va intervenir. C'est le deuxième point ici. À sa manière, je le comprendrai peut-être pas, mais il va intervenir. De t'accepter aussi que Satan, il est là dans le game, il tente de me décourager. Mais je peux être victorieux. Ça aussi, je l'accepte par la foi. Et puis, un quatrième point que vous ne voyez pas, mais on va les regarder tous un petit peu en détail. Dans le fond, c'est quatre points que j'aimerais approfondir un peu plus, que ça nous rentre dans le coco, tranquillement, pas vite, que ça fasse son effet. Le quatrième point, c'est que mon obéissance honore Dieu et il veut que je sache qu'il y aura une récompense. Puis des fois, on se dit, oh, la récompense, moi, je regarde pas à ça. Mais là, il dit, je me donne la peine de te dire, tu sais, qu'il y aura une récompense. Dans Matthieu, Jésus, il dit, ceux qui seront... qui auront été comme les prophètes d'autrefois, maltraités, il y aura une grande récompense. Je te le dis, regarde un peu à ça. Regarde pas juste à ta peur, regarde aussi à la récompense. S'il se donne la peine de le dire, c'est parce que ça devrait faire une différence. Donc, on va regarder un petit peu là, ces quatre points-là en détail. On les regardera pas tous aujourd'hui. On va s'en garder un petit peu pour la semaine prochaine. Dans le fond, c'était Marc Levasseur aussi qui était censé, comme je disais tout à l'heure, là, apporter le message. Mais dans mon message, là, ça débordait. Fait que ça donne bien. Ça va déborder la semaine prochaine. Fait que si vous voulez pas entendre parler d'évangélisation la semaine prochaine, vous savez quoi faire. Mais si vous voulez être encouragé à peut-être à rattraper la piqûre, je vous invite à revenir. Donc, faire confiance à Dieu, de prendre ça, il dit la destinée éternelle des âmes est prioritaire et Dieu veut m'utiliser. Puis là, on va regarder ça un petit peu en détail. C'est ça que la destinée éternelle des âmes est prioritaire. Tu sais, pensez au nouveau chrétien qui veut partager à tout le monde parce que c'est tellement beau. Hey, c'est une priorité. Et puis là, il vient de rencontrer Jésus. D'être réconcilié avec Dieu. Ses péchés sont pardonnés. Il a compris l'amour incroyable de Dieu en Jésus-Christ. Puis là, c'est tellement beau, c'est une priorité. Mais l'attitude de ce jeune chrétien-là, qu'on a trop souvent perdu aussi, OK? C'est ça qui veut que Dieu il dit, non, c'est une priorité, remets ça en priorité. Ça s'est peut-être fait bousculer en bas de la pile. Moi, je veux que tu la remettes en haut de la pile. Puis je veux t'utiliser. Il y a aussi une obligation morale de partager à ceux qui sont dans le besoin. Et tout ça, d'entendre ça, c'est sûr, ça me met un fardeau. Mais je vous encourage, là, prenez-le le fardeau pour l'instant. Mais pensez que s'il donne le fardeau, il va aussi donner la force. Il va aussi donner une grâce. Il va aussi donner le Saint-Esprit, puis une joie. OK? Mais prenez-le le fardeau. Aussi d'accepter par la foi que la vie actuelle est une pratique, la vie future, c'est la vraie vie. Puis des fois, on perd ça. T'sais, on travaille avec des gens, puis on... Bon, c'est ça, la vraie vie. Là, on a des problèmes au bureau, au travail, à shop, puis tout ça. Puis là, bon, la vraie vie, c'est ça. Puis là, les gens, c'est nos collègues de travail. Mais là, de dire, wow. Non, c'est pas ça, la vraie vie. Ça, là, ce qu'on vit présentement et qui nous accapare tellement... C'est juste une pratique. La vraie vie, c'est celle qui s'en vient. 2 Corinthiens 4, 18 dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles de la vraie vie, ce qui nous semble être de la vraie vie, mais à celles qui sont invisibles, les âmes aussi, la destinée éternelle des âmes. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Fait que c'est comme des notions que j'ai mis là, que si je les accepte par la foi, puis je l'oublie des fois. Puis il faut que je me remette dans la tête, hey, les gens avec qui je travaille, Eric, tu sais, mon collègue de travail, ta minute, c'est juste temporaire ici. Moi, je vais partir, lui, il va partir, puis il y a l'éternité devant nous. Oh, c'est lourd. Non, mais je vais l'accepter. Puis je vais m'inculquer ça, puis je vais me laisser confronter par cette réalité-là, puis fais confiance, il va me donner la force aussi. Il va donner un moyen de supporter ce fardeau-là. Et il veut m'utiliser, c'est un privilège, puis des fois, c'est une responsabilité aussi. Des fois, on ne l'avouerait pas, c'est lourd, cette responsabilité-là. On va regarder un petit peu plus en détail. Et c'est une histoire dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on avait le prophète Élisée, et là, à ce moment-là, la ville était entourée, en état de siège, par des Syriens en quantité industrielle. Ça faisait longtemps, tellement longtemps qu'ils étaient en siège, donc tout encerclé, puis qu'ils leur coupaient la nourriture, que ça raconte des histoires. Puis ça, c'était un jugement qui était déjà prédit à ceux, au peuple d'Israël, qui s'éloigneraient. Il dit, là, si vous vous éloignez de moi, je vais envoyer des jugements terribles, même au point que des mères qui aiment leurs enfants vont dévorer leurs propres enfants, tellement ils auront faim. Bon, dégueulasse. Mais c'était rendu à ce point-là. Puis ça disait même le prix d'une tête d'âne, c'était 25 pièces d'argent. C'est comme 25 journées de travail, puis t'as pas grand viande à manger dans une tête d'âne. C'est juste pour dire, c'était ridicule, c'était la crise. Et puis là, quand le roi a su ça, qu'une femme avait mangé son enfant, puis que il a déchiré ses vêtements, puis là, il a dit, « Élisée, ce gars-là, je vais le tuer. » Et puis, il a envoyé un garde pour aller le tuer. Élisée a dit, « t'as une minute, demain, on va acheter un paquet des sacs de farine puis d'orge pour presque rien. » Voyons donc. Et c'est ça qui est arrivé, quelque chose de prodigieux, et c'est là qu'on rentre dans l'histoire. OK? Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Et alors, la ville est encerclée. Eux autres se tiennent près de la ville dehors, parce que c'est des lépreux. Ils veulent pas les avoir en dedans. Mais là, les lépreux commencent à réfléchir. Puis c'est drôle, c'est comme dans l'après-midi, là ils se disent, « Coudon, qu'est-ce qu'on fait là, nous autres? On est en train de mourir de faim ici. On va faire de quoi? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? On n'y reste plus grand jour, là. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, ben là, nous mourrons. Tant qu'à mourir, aussi bien essayer. » Fait qu'ils s'en vont là-bas dans le camp. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Là, il y avait comme une panique qui les a pris, que Dieu a comme envoyé une terreur. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, à la tombée du jour, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuient pour sauver leur vie. Ils n'apportent rien, ils partent comme des malades, puis ils laissent tout en arrière. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, ils étaient affamés, et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or. Imagine un lépreux, c'est pauvre. Et là, ça a été caché, ça. Il était fou, comme une souris qui rentre dans une boulangerie, ne savait plus où donner la tête, tout est énervé. Fait que là, des vêtements qu'ils allaient cacher, ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Et là, commence à réfléchir. Ils font la petite manigance deux fois. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Bonne nouvelle. « Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, » le Seigneur va venir comme la lumière brillante du matin. Le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Fait qu'il y avait comme une conscience, c'était pas des gens particulièrement spirituels, mais là, un moment donné, là, il dit, « Hey, c'est pas correct. » Là, ils crèvent de faim en dedans. Eux autres aussi. Il faut venir maintenant. Tout de suite. Et allons informer la maison du roi. Alors, ils ont fait ça. Et puis là, finalement, l'histoire se continue. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, et vous voyez le parallèle que je suis en train de faire, là, c'est qu'on a une bonne nouvelle devant des gens en besoin. Et là, t'entends ça, je le sais. C'est parce que là, ils m'accepteront pas là, comme les gens de la ville. Ils étaient contents, eux autres, d'avoir cette bonne nouvelle-là. Mais moi, les gens à qui je partage, ils sont pas si contents. Eux autres ne se sont pas fait rejeter, moi je risque de me faire rejeter. Une différence, je le sais. Mais laissons-nous toucher quand même, OK? Laissons le Saint-Esprit faire son travail, appliquer. On doit d'abord accepter le sentiment d'obligation morale. Et là, j'aimerais ça qu'on regarde, c'est l'histoire hein, du... De quelle histoire? Du bon samaritain. Et puis, regardons-les, là, tu sais, qui prend. Je sais, lui non plus, il se faisait pas rejeter, puis moi, au travers, je vais me faire rejeter. C'est pas tout à fait pareil. Mais il y avait quand même la même obligation morale devant le besoin de quelqu'un. Et là, on voit les autres, ça fait pas tout le temps l'affaire. Ça, c'est une reproduction moderne. Puis on voit ici, en haut, là, c'est l'homme d'affaires qui passe son chemin. Ici, c'est un ecclésiastique, là, avec son chapeau, qui passe son chemin. Et puis là, les Américains, hein, ils ont pris quelqu'un, un noir, tu sais, qui... Pas censé, là, c'est un autre gang. Mais non, il est venu. Lui a pris soin. Il s'est penché du gars, puis il a eu pitié. Puis là, ça coûtait de quoi? Puis je regardais ces images-là. Tu sais, comme celle-là, là, tu sais, le gars plein de tendresse qui prend son turban pour y essuyer ses plaies. Et puis, cette pitié-là du bon samaritain. Et je pense que dans cette situation-là, ça s'applique. On a une bonne nouvelle, les gens meurent sans cette bonne nouvelle-là. La vraie vie, c'est celle qui s'en vient. Ils vont rentrer dans l'éternité sans pardon. Et tu sais, je regardais, puis les artistes se sont comme évertués à nous montrer ça. Tu sais, le gars là, tout confus, là, il savait pas comment ça s'est sur le cheval, la picouille. Puis c'est compliqué, mais tu sais, il s'est forcé. Ah ouais, assis-toi, t'es capable. Et puis... Là, il arrive là-bas à l'hôtel, là. Puis l'hôtelier tout préoccupé, puis l'autre pas capable de s'aider lui-même, puis le curieux en haut qui regarde ça, aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Mais tout l'effort qu'il a pris, donc, pour prendre soin. Et je regardais dans notre société, ça c'est educalois.qc.ca, puis ça parle de la notion là de bon samaritain, puis d'une obligation, même les non-chrétiens, disent, tu n'as pas le droit de faire ça. Et puis, en France aussi, dans le code criminel, de non-assistance à une personne en danger. Tu es obligé, selon la loi. Et puis, les Américains ont ça, rescue duty. Tu dois porter secours. Si tu peux, tu dois porter secours. Est-ce que j'ai l'obligation de porter secours à une autre personne? Puis, généralement, oui, à moins que ça te mette toi-même en danger de mort. Si tu sais pas nager, puis la personne est tombée dans l'eau, va pas te pitcher à l'eau. Je sais. Mais autrement, si tu peux, tu dois. Puis c'est vrai que ça fait pas ton affaire. Hey, là, moi, je m'en allais à l'aéroport en vacances. Puis là, lui, le bonhomme, il se trouve une infarctus devant moi. Penses-tu que j'ai le temps? Hein? Mes vacances, moi. Mais non. Hey, tu dois. Il y a un besoin. Porter secours. C'est ça que la loi dit. C'est ça que les non-chrétiens disent. Puis là, bon, dans mon cheminement, au niveau de l'évangélisation, j'en faisais pas, comme je vous disais. C'est comme si j'essayais de m'appliquer ça à mon cœur. Ça faisait pas mon affaire. Puis là, je vous le propose, OK? Prenez-le comme vous pouvez, là. Mais je pense que c'est bon. Oui, c'est vrai. J'ai cette obligation-là devant toi, Seigneur. Accepte-la, là. Je sais pas comment faire, j'ai pas la force. Accepte l'appareil. On va voir la suite. Fais-y confiance. OK? Donc, il y a un sentiment d'obligation morale. Et là, dans notre cas, c'est d'aller, de parler. Puis on connaît tous le verset. Allez donc. Faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père. Puis là, moi, quand j'écoute ça, là, si on se met dans le contexte, OK? Là, ces 12 disciples qui sont vraiment, ils étaient apeurés. Et puis, t'as une minute, là, tu veux que j'aille faire de tous les disciples, toutes les nations. Hein? Je ne parle pas leur langue, moi. Toutes les nations. Là, au flac, je leur parle de choses de juifs qu'ils ne connaissent pas. D'un Jésus qui écoute. Mon Jésus, moi, il est mort comme un criminel, pas d'allure sur une croix. Yes, hein, yes. Ça, c'est loser en masse. OK? Voyons donc. Là, je vais aller parler d'un crucifié. Puis là, supposément qu'il est ressuscité. Oui, mais je peux pas te le montrer. Il est plus là. Il est parti au ciel. Mais il est ressuscité. Et là, tu vois, la job impossible. Si j'étais disciple, là, j'aurais été découragé. Puis là, c'était comme un défi déraisonnable. Jésus, non, allez. Mais oui, il dit, toute autorité, juste avant, là, je ne l'ai pas mis le verset, mais toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans le ciel, allez. Faites-moi confiance. Ça n'a pas d'allure, je sais. Vous allez me voir agir. Ça va prouver que ce n'est pas par vous, que c'est par moi. C'est ça l'histoire un peu. Et ça, moi, j'ai besoin de me le rentrer dans le coco. Ça ne rentre pas vite. Puis là, c'est pour ça que je vous le partage. Puis j'espère que... OK, allez, c'est ça qu'il dit. Et là, j'ai pris des citations. C'est comme, tu sais, le Seigneur... Ça dit qu'il donne des dons à l'Église. Hein? Il y en a qui sont pasteurs. Puis il y en a qui sont musiciens. Moi, je serais vraiment pas bon là-dedans. Puis Sylvain, là, j'ai vraiment pas son don. Mais il y a toutes sortes de dons. Puis il y en a qui étaient vraiment évangélistes. Puis j'ai pris des citations de ces dons-là que Dieu avait donné à l'Église, des vrais évangélistes, qui ont prouvé, qui ont porté du fruit en abondance. Puis qu'est-ce qu'ils disaient? Parce que j'ai dit, j'ai besoin de leur aide, moi. J'ai besoin d'apprendre à évangéliser, je ne suis pas capable, c'est difficile, j'ai peur. Il y en a un qui disait, Oswald J. Smith, puis juste sur leur vie, on pourrait faire toute une histoire, là, de raconter la vie de ces gens-là. C'est pas comme les premiers venus là, qui théorisaient là, sur son bureau en écrivant des beaux messages. Là. Il dit, la mission de l'Église, ce sont les missions. Nina Gunter avait dit, « Si vous retirez les missions de la Bible, il ne vous restera plus que la couverture. » C'est ça l'histoire. Dès le jardin d'Éden, dès la première faute, Dieu s'est donné comme mission de se réconcilier avec l'homme égaré. C'était toute l'histoire de la Bible. David Livingstone, qui était... un missionnaire en Afrique qui a souffert comme ça se peut pas. Les cannibales, apparemment, ils voulaient le manger, mais étaient tellement maigres qu'ils sont même pas donné la peine. Puis qui disait, pour l'amour de Jésus, Dieu n'avait qu'un seul fils et il en a fait un missionnaire. C'est la priorité. Puis il nous a pas donné beaucoup de grandes commissions. Il y en a une. Allez. OK. Là, il faut... Je me rends ça dans la tête. Non, écoute, là, je l'avais mis loin comme priorité. Il faut que je la remette sur le top de la pile. Ça ne fait pas mon affaire. Mais OK, il faut que j'y fasse confiance aussi. Ça va-tu? Comprenez-vous un petit peu la logique? Toute église qui n'est pas sérieusement impliquée à aider à remplir la grande commission a abandonné son droit biblique d'exister. Je vais la relire. Toute église, et là, on peut s'examiner comme église, comme chrétien aussi. Parce que, tu sais, pourquoi est-ce qu'il nous sauve? Il ramène en haut, viens-t'en tout de suite, je t'aime, t'es mon enfant, puis tout ça, il nous aurait ramené. Pourquoi est-ce qu'il nous garde ici? Pour travailler? Voyons donc. Pourquoi est-ce qu'il nous ramène pas tout de suite? Parce qu'il veut qu'on soit des témoins, qu'on brille. Vous êtes là. Lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Fait que donc, toute église qui n'est pas sérieusement, parce qu'on est sérieusement impliqué à aider à remplir la grande commission, a abandonné son droit biblique d'exister. Tu peux t'en aller en haut tout de suite. Bye bye. Voyons donc. Là, ça me parle, ça me remue. Puis là, c'est comme de dire, OK, j'accepte. Je pense que c'est selon le Seigneur. Puis là, bon, ici, j'avais mis cette citation-là un petit peu pour corriger. OK, c'est pas juste la grande commission. OK? Piper avait dit, l'évangélisation n'est pas le but premier de l'Église. C'est plutôt l'adoration, selon lui. Mais l'évangélisation existe parce que l'adoration n'existe pas. Notre plus grand rôle dans l'univers, ça va être de donner gloire à Dieu. Mais là, quand des gens sont inconvertis, est-ce qu'ils peuvent donner gloire à Dieu? Non. Ben, on va les évangéliser, on va leur présenter Dieu, on va les réconcilier avec Dieu et ils pourront donner gloire à Dieu. Fait que ça rectifie un petit peu ça. Mais oui, j'admets, c'est comme un fardeau, mais c'est comme de renouer avec ce souci pour les âmes-là. C'est mon appel à moi aussi, qui n'est pas naturellement porté vers la chose. Et comment je vais gérer ça? Est-ce que je vais être un décrocheur spirituel? C'est comme à l'école, hein? On envoie des jeunes. Je travaille dans une école, je recommence moi lundi, et puis des jeunes qui sont assis sur le banc d'école, puis il y en a un paquet, dans certaines classes, là, il y en a plusieurs, ils sont assis, sont présents, ils ne dérangent pas trop, mais sont décrochés. Ils sont pas partis encore, mais mentalement, là, ils ne sont plus là. Moi, là, je coule, je passe, je m'en fous. Ils sont décrochés. Mais spirituellement, on peut être assis ici, mais face à l'évangélisation, on est décroché spirituellement, pas capable. Et là, c'est comme donc de renouer avec ça. On va voir le deuxième point. Faire confiance à Dieu, c'est tout ça, hein? Ça a peut-être l'air compliqué, puis peut-être c'est pas elle-même, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes idées, mais c'est peu importe. Là, l'idée, là, c'est que de faire confiance, si Jésus me demande de parler, il va intervenir. Puis je pense que pour moi, c'est ça la clé. Il va intervenir à sa manière. Je le vois peut-être pas. Si un jour, timidement, je prends mon courage, ça je suis capable, tu sais, je te donne un Nouveau Testament, ça parle de Jésus. Oh, OK. Ma monsieur. Bon, j'ai pas vu, là, un grand dénouement, hein? Pas grand vu grand-chose. Mais est-ce que je peux rajouter à ça une confiance en Dieu? Écoute, j'ai donné la parole de Dieu, là, après ça, c'est à toi. J'ai pas su engager la conversation, le convaincre, jaser, puis non, j'étais pas capable. Mais j'ai fait ça, j'ai donné ça, puis est-ce que je peux croire qu'il va y avoir une suite à l'histoire? Je la connais pas. Puis c'est pour ça que j'ai rajouté à sa manière. Mais il va intervenir. S'il m'a appelé, il n'est pas indifférent. Est-ce qu'il est au ciel, indifférent face à tout ça? Ah, je t'ai occupé. Ah, t'as donné un Nouveau Testament? Ah, je ne l'avais pas vu, celui-là. OK. Ah, je vais essayer de faire de quoi, là? Non, c'est sûr. C'était ma grande commission. Là, j'ai fait un petit peu ce que je pouvais. Je ne savais pas faire plus. Mais j'ai fait une petite partie. Là, je peux être sûr, il va intervenir. L'histoire se finit pas là. Et la semaine prochaine, je vais amener une vidéo. J'en ai une série comme ça de vidéos. C'est des gens qui ont reçu un Nouveau Testament. Et l'histoire, la suite de l'histoire qu'on sait pas habituellement, elle nous est racontée. Fait que l'histoire que je vais vous montrer, c'est une sataniste, la madame. Elle vivait dans la prostitution, droguée au bout, puis tout ça. Elle allait se suicider. Et là, la suite de l'histoire la semaine prochaine. OK? Mais c'est juste pour vous dire, il va intervenir. Et c'est ça implique ma foi. Peux-tu me croire? Peux-tu me faire confiance? Qu'il me dit, penses-tu que je t'envoie tout seul? Parce que là, ça dit, hein, toute autorité m'a été donnée. Allez. Et qu'est-ce que ça dit après? Un petit peu après? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, du temps. Là. Je suis avec vous. Fais-moi confiance. Puis c'est ça que je trouve qui change ma perspective. Avant, là, honnêtement, j'y faisais pas confiance. Là, j'y fais un peu plus confiance. Puis qu'est-ce que ça fait comme changement? Ça m'encourage. Hey, quand j'ai donné mon petit Nouveau Testament, ou quand j'ai donné mon petit dépliant, il va faire de quoi? Là, je le crois. Avant, je n'y pensais même pas. Là, je commence à y croire un peu. Ça change. Là, ça m'encourage. Je regarde pas juste à ma peur, c'est vrai, la peur, le rejet, pas capable, puis tout ça. C'est vrai. Là, je regarde aussi à l'autre portion que je voyais pas avant. Celle d'en haut, la part, le rôle que lui va jouer. Comprenez-vous? OK, on va regarder un petit peu plus en détail. Et c'est ça. Ici, là, c'est donc une question d'obéissance et non de capacité. Et puis là, j'ai quelques autres citations. C'était Hudson Taylor. Lui, encore là, c'est un des missionnaires que je trouve le plus admirable. Il avait dit « Dieu utilise les hommes et les femmes qui sont assez faibles pour dépendre de lui. » Pas qu'ils sont capables. Tu sais, il y en avait dans des applications missionnaires là, qui avaient un tas de pédigrés, leadership, capacité des langues, santé, puis tout ça. Lui, c'était, oui, c'est important, mais est-ce qu'il aime le Seigneur? Est-ce que le feu est là? Est-ce qu'il est fidèle? Surtout, est-ce qu'il est obéissant? S'il est obéissant, le Seigneur va faire le job. La capacité, elle vient de Dieu. Même s'il manque bien des capacités. Puis la semaine prochaine, on va voir une histoire d'une femme incroyable qui avait, on peut pas dire zéro capacité, là, mais pas beaucoup de capacité. Puis le Seigneur a honoré son obéissance. Les missions ne sont pas un choix de ministère pour quelques chrétiens hyperactifs dans l'Église. Les missions sont la raison d'être de l'Église. Des fois, on se dit, ah, la petite gang, là, tu sais, eux autres, c'est des... Ça, tu sais, ils peuvent pas, on peut pas les asseoir tranquilles, là. Allez-y, allez-y, allez-y. Non. C'est notre, ma raison d'être. Sinon, il peut me ramener. Dieu ne recherche pas des personnes avec une grande foi, mais des individus qui sont prêts à le suivre. Il est probable que quelqu'un... Pense à ça, OK? Ta conversion. Comment tu t'es converti? Il est probable que quelqu'un, c'est ça, sorti de sa zone de confort pour te parler de Jésus et t'inviter. C'est vrai? La plupart, hein? C'est rare, là, qu'on trouve un traité par terre puis qu'on se convertit tout de suite. Puis la Bible nous dit que cette personne-là n'avait aucune chance de te convertir, aucune capacité par elle-même. C'est Dieu qui doit faire opérer la nouvelle naissance. Mais le Seigneur a fait le miracle, puis la lumière a brillé dans ton cœur. Hein? Quelqu'un qui s'est mouillé, qui s'est jeté à l'eau, qui a fait le bon samaritain, puis qui est en dehors de son chemin, qui t'a présenté Jésus. Et puis, il n'y avait aucune chance de réussite en te présentant Jésus par ses propres forces. Et le Seigneur est intervenu pour toi, si tu es né de nouveau. Le Seigneur est intervenu, il a fait un miracle. Fait que c'est bon de penser, il l'a fait pour moi. Fait que quand je vais en parler, il veut répéter, lui, mais il veut t'utiliser, il veut m'utiliser, il veut répéter le même miracle. Ouvre ta bouche. C'est lourd, c'est vrai. Mais, OK, tout ce qui est lourd, tout ce que tu n'es pas capable, représente-le devant lui. Seigneur, là, je ne suis pas capable, il va falloir que tu me redonnes un feu, il va falloir que tu fasses de quoi. Mais dis pas non. Si je regarde à mes capacités, je vais avoir peur et être découragé. Mais si je regarde à Jésus et que je crois qu'il veut faire un miracle, je vais obéir. Puis il va me donner le feu du Saint-Esprit. Là, je vois que le temps est pas mal passé, puis j'avais une petite bande dessinée, OK? J'aime beaucoup ça, les bandes dessinées. Puis je sais qu'on a des jeunes aussi, puis pendant l'été, fait que on va regarder ça. Ça fait votre affaire? Et la raison pour laquelle je voulais qu'on regarde cette bande dessinée-là, c'est un voyage en Chine que ça s'appelle... Ici, fermer ça. C'est que... c'est ça, à un moment donné, j'avais commencé à faire du porte-à-porte avec tout ça, là, une longue histoire. Là, puis là, je voyais ce gars-là qui faisait un peu de porte-à-porte. Mais c'est de voir son obéissance, puis de voir que Dieu est intervenu. Puis comme je vous disais, on ne voit pas l'envers de la médaille, hein, la suite, quand il va intervenir à sa manière que je ne vois pas. Mais là, on va la voir un peu. Fait que juste pour le fun, regardons l'histoire. Et ça, c'est une histoire vraie. Là, c'est en bande dessinée, là, mais c'est arrivé en 1989. Donc, ça fait quoi, une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Et puis, ça a été rapporté par l'Open Door Ministries. Ça, c'était un de leurs ouvriers, un autochtone. C'est en Chine. Ça dit, depuis des semaines, je parcours la province inhospitalière du Gansu. C'est ma première mission d'évangélisation. Fait que le gars, il s'en va tout seul. Puis là, j'essaie de me voir dans sa tête. T'sais, qu'est-ce qui le motive? Ça n'a pas l'air le fun, là. T'sais, c'est l'hiver, il fait fret, c'est pas beau, puis tu vas trouver des paysans, d'aller parler d'un juif, ils ont pas d'arrière-plan chrétien pantoute, mais il est obéissant. Allez. Et puis, notre génération de chrétiens est responsable pour notre génération de Québécois. Paul, Pierre, puis tout ça sont plus là. C'est juste nous autres. Fait que lui, il se dit la même chose. Ben moi, tu sais, je suis responsable pour mes petits Chinois. Fait que là, il s'en va. Dans les villages précédents, j'ai déjà amené quelques personnes à Jésus. Fait qu'il est encouragé. Il est tout seul. Let's go. C'est un jeune. Et puis, il va. C'est mon sixième village. Fait que ça fait un petit bout de temps qu'il marche, puis qu'il y va fidèlement. Et c'est dit en bas, l'histoire se déroule dans la période de Noël en 1989. Et là, il arrive dans un village. Puis on le voit ici, il est en haut. Là. Et puis là, bonjour, il voit, il y a un attroupement. Et puis, je vous apporte une bonne nouvelle qui... Écoutez, nous n'avons que de mauvaises nouvelles ici aujourd'hui. Oups. Un couple s'est fait voler son bébé. Là, ça l'explique pour les jeunes. L'enlèvement d'enfants n'est pas rare en Chine où les couples n'ont le droit d'avoir qu'un enfant. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voler l'enfant d'un autre. Puis ils font ça pour avoir des petits gars, parce que les Chinois veulent avoir des petits gars. Malheureusement, ils vont avoir des problèmes tout à l'heure. Mais c'est pas l'histoire. Il se dit, OK, pourrais-je voir ce couple? « Allez-vous-en, on n'a pas besoin de vous ici. Fichez-nous la paix, partez. » Je n'ai pas été reçu ainsi. Dois-je reprendre ma route? Il s'est questionné. Là, il a insisté un petit peu. « Conduisez-moi chez ce couple, je vous en prie. Je pourrais peut-être l'aider. » Pour qu'un gars ait du culot comme ça, c'est qu'il doit croire que Jésus veut intervenir. C'est ça, là. Tu as été reçu de cette façon-là. Bon, ben là, écoutez, bon, je ne te range pas plus. Il y en a d'autres villages ici en Chine. À la prochaine, puis pas de... c'est bon, non. Correct, compris. Et puis, mais là, lui, il dit, non. C'est parce que moi, je ne suis pas tout seul. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec moi et toute autorité. Fait que moi, j'avance sur ça, là. C'est sûr que c'est pas naturellement qu'on a le goût d'avancer dans ce temps-là. Il dit, non, j'aimerais ça le voir, ce couple-là. Je pourrais peut-être l'aider. Quelqu'un veut-il?
Hey! Suis-moi, mais nous n'aimons pas les curieux. J'espère que tu partiras vite après.
Là, eux autres étaient un petit peu, peut-être déstabilisés par son insistance. Scram! Là, il va voir le couple. Là, il rencontre la face longue, détresse intense. Hey, tu viens de perdre ton enfant. Volé. La colère. La femme, le visage défait. Là, lui, bon, il est peut-être maladroit. Là. Je comprends votre terrible chagrin. C'est pas vrai qu'il comprenait. Mais il s'essaye. Okay? Avec ses faibles capacités, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. C'est Dieu. J'aimerais le prier pour vous. Tu sais, c'est pas très talentueux, hein, mais il s'essaye, il fait, puis juste sur la notion, il va intervenir. Il m'envoie pas, c'est pas un accident que je tombe ici. Il m'envoie là, il va faire de quoi. C'est ça qui m'encourage. Là, il dit, bon, on voit à gauche, il se demande peut-être qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, quoi prier. Ben, cher Père Céleste, il y a bien longtemps, à ce moment de l'année, tu as envoyé un enfant dans le monde. Et tu nous as sauvés. Ben, aujourd'hui, nous te demandons de nous ramener l'enfant disparu et de délivrer ce village de la tristesse qui l'étreint. Amen. C'est pas correct, hein? C'est correct. Ah, taisez-vous et partez! Là, là, lui, là, la colère, tu sais, il a insulté aussi, là, tu sais. Nous avons déjà prié nos dieux et il ne s'est rien passé. Pourquoi le vote ferait-il mieux? Ah ouais, là, dehors l'étranger, nous n'avons que faire de ton dieu. Plus, regarde, là, c'était des karatémans, là, tu sais, kung-fu, puis là, badang, la Bible dans la neige, puis la revol, là, c'est intimidant, pas à peu près. Et là, il ramasse ses clics pis ses claques, puis il repart, prend sa marche. On voit le village, là, au bout, là. Et puis là, ça travaillait. Puis là, il était vraiment triste. Là, il dit, tabarnouche, Seigneur, est-ce que j'ai prié en vain? Moi, je faisais confiance à toi que tu allais intervenir. Puis là, regarde, c'est quoi, tu n'étais pas avec moi? Puis il se met à genoux. Puis il prie. Puis il faut qu'on règle ça. Puis là, parce que moi, tout seul, là, tu sais, ça ne marchera plus mon affaire. Puis là, ça commence à tourner. Tu vois la neige qui s'accumule sur ses épaules. Puis il se met devant Dieu. Puis là, le Saint-Esprit parle. Il dit, toi, le Fils de Dieu, tu es venu dans le monde. C'est vrai, en sachant que tu serais méprisé, battu, chassé, incompris, puis finalement crucifié. C'est vrai. Ouais. Puis malgré ça, t'es venu. Puis là, ça commence à y parler. Puis moi, je suis venu dans ce village en espérant être reçu en héros. Tu sais, la curiosité, ils n'ont pas grand visiteur, ou du moins être une attraction pour ces gens. Au lieu de ça, ben, j'ai été me traiter un peu comme tu l'as été. Puis tu vois, le village est là. Oh, encore là. Et regarde le village. Puis, je sais ce que j'ai à faire. Je dois suivre ton exemple. Je dois avoir le même courage que toi. Pourquoi qu'il avait une attitude de même? Parce qu'il savait. Il dit, non, moi, j'ai confiance en Dieu. Il ne me laissera pas tomber. Il va intervenir. Je ne sais pas comment. Mais il va faire de quoi? J'y fais confiance. Vous voyez que c'est la foi qui fait une différence. Si j'ai pas la foi, je vois juste le problème. Si j'ai la foi, ben il y a le problème, mais il y a le grand Dieu. Puis le grand Dieu est plus grand que les grands problèmes. Là, il dit, je vais y retourner, parce que c'est pas vrai que t'es pas là. Moi là, c'est pas vrai. Il retourne. Je dois retourner au village, tout en sachant que j'y serai méprisé, comme toi. Mais je tremble de peur, c'est vrai. Le gars, il shakait. C'est dangereux. J'ai encore les bras, les épaules meurtries par les karatémans. C'est vrai qu'il y avait un danger. Puis c'est quoi que je vais leur dire? Mais il y avait toutes ces vraies questions-là. Puis d'un autre côté, il y avait la foi. Puis là, si je ne peux pas faire confiance en toi, Seigneur, moi, la vie ne fait plus de sens. Je te fais confiance. Plus que je fais confiance dans ce problème-là. Et là, en marchant vers le village, il entend « Oui! » Un bébé? Mais où est-il? « Oui! » Seigneur! Loué sois-tu. Puis là, le bébé qui broille parce qu'il a froid. Et là, qui comprend, c'est sûrement le bébé volé ce matin. N'aie pas peur, je vais te réchauffer. Oui. Voilà l'explication. Les ravisseurs se sont aperçus trop tard que tu étais une fille. Parce que les couples qui financent le trafic ne veulent que des garçons. Et ils t'ont abandonné là. Et là, il a vu le Seigneur, il m'a pas laissé tomber. Il est intervenu. Il prend le bébé, puis il marche, il dit pas un mot. Il avait sa confiance. Là, moi, je vais voir le Seigneur agir aujourd'hui. Et là, il approche, on le voit là-bas, au loin encore. Puis là, les gens, qu'a-t-il donc dans les bras? Il dit pas un mot. Là, on va voir mon Dieu agir. Le bébé, c'est le bébé, il est vivant. Il dit pas un mot. Oh, les parents. Il amène le bébé. Il dit pas un mot. Je vois le Seigneur intervenir. Mon bébé, mon beau bébé. Puis là, le père, venez vous réchauffer. Et là, c'est eux autres. Racontez-nous, qui est ce Dieu que vous avez prié? Quelle invitation, quelqu'un le dit. Je suis là, l'hôte, hôte honoré face à une trentaine de villageois qui attendent, en retenant leur souffle, d'entendre l'Évangile. C'est beau, hein? Il y commence. Eh bien, il est venu, le Dieu que j'ai prié sur la terre, sous la forme d'un petit bébé. Juste à cette époque de l'année, il y a 2000 ans. Il raconte, cette nuit même, le couple a cru en Jésus. Moi aussi, j'ai appris une grande leçon. Je ne suis passé à portée de la voix du bébé que parce que j'avais déjà repris le chemin du village. Ce qu'il me demande, moi, c'est obéir. Fais-moi confiance. Je vais intervenir, mais à sa manière. On ne verra pas toujours le déroulement, là, la suite de l'histoire. Mais peux-tu me faire confiance pareil? C'est moi le boss. Obéis. C'est-tu toi le boss ou c'est moi? Ah ouais, fais-moi confiance. Si je n'avais pas eu le courage d'apporter et l'obéissance, d'apporter l'Évangile malgré les risques, je n'aurais pas retrouvé le bébé. Et ces villageois. Ça dit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde. Il les aime. C'est le verset le plus beau, puis je trouve que c'est la plus belle portion du verset. Dieu a tant aimé le monde. Ces villageois-là, il les a tellement aimés. Dieu les aime. Si c'est important pour Dieu, ils sont importants pour moi. Et ces villageois n'auraient pas entendu parler de Jésus. Comme Jésus, je devrais être prêt à payer le prix pour apporter l'Évangile. L'humiliation et le mépris des hommes. C'est vrai, mais il y a une histoire, fais-moi confiance, qui dit. Histoire vraie tirée avec l'autorisation du journal Porte Ouverte en décembre 90. Si vous voulez, on va prier. C'est ça. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu nous connais, tu nous as tissés, tu nous as sauvés, tu as fait un miracle pour nous, tu nous aimes. On va revenir sur la base de notre relation avec toi. Maintenant, tu nous appelles à quelque chose qui est complètement hors de caractère pour nous et que tu l'as voulu ainsi, parce que tu veux te glorifier. Seigneur, on te présente devant toi nos craintes, nos peurs, nos incapacités. On invoque ta grâce dans le nom de Jésus. Fais de nous des enfants confiants en toi, fidèles. On te demande une faveur, la foi qui te fait confiance. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ranime un feu avec par cette foi-là. Donne-nous de courir la course. La vie est courte. Bientôt, on va être auprès de toi. On ne veut pas, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ce que nous faisons n'est pas bien. Si nous gardons ça pour nous, c'est pas correct. Venez maintenant, Seigneur, donne un nouveau feu dans notre cœur. Dans la puissance du nom de Jésus, on demande ta grâce. Amen.